Peut-être je vais continuer la présentation. Donc, vous êtes professeur de sociologie et d'anthropologie donc à l'Université de Strasbourg. Et vous avez publié donc votre thèse qui s'appelle L'empreinte du poing, la boxe, le gymnase et leurs hommes, aux éditions de l'EHESS en 2014. Et ça a été traduit et ça a été publié chez Palgrave, Boxing, the Gym and Men, the Mark of the Fist, en 2018. Et par ailleurs, on pourra se reporter à votre page personnel, vous avez produit effectivement, comme l'a dit tout à l'heure un peu en off Christine, de nombreux articles où la question qui a été un petit peu abordée par Nicolas, les techniques du corps, la fabrication de soi par le corporel, hein, vous les avez explorées. Et là, vous êtes sur un autre volet, une autre piste qui n'est pas celle de la boxe. Voilà, et donc je vous laisse présenter le sujet et puis donc vous avez une demi-heure.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisatrices comme les organisateurs de cette journée qui ont su la faire exister en dépit des circonstances avec lesquelles on doit tous apprendre à composer maintenant. En parlant de composition, je m'efforcerai de réunir ici quelques notes pour une suite musicale aux enquêtes notamment ouvertes par Stuart Hall et Paul Gilroy au cœur des formations diasporiques issues de la colonisation européenne de l'Afrique. Empruntant aux acquis des Cultural et des Black Studies, je vous parlerai de quelques-unes des formes emblématiques prises par la musique jamaïcaine au cours des 50 dernières années. Pour ce faire, je me concentrerai sur l'apport des DJs. Ni chanteurs, ni simples déclamateurs de textes, les DJs, proches cousins des MC dans le rap, sont les acteurs d'une oralité où s'inscrit la pulsation de la rue jamaïcaine. Une pulsation dont la force se mesure souvent à ce qu'ils ont coutume d'appeler Babylone. Nous y reviendrons. Il suffira ici de préciser que, dans l'acception que lui donnent nombre de Jamaïcaines et de Jamaïcains, ce signifiant biblique fait le lien entre l'exode du peuple noir, tenu captif en terre étrangère, et les différentes expressions de cette domination postcoloniale dont l'emprise sur le quotidien aurait muté sans jamais se relâcher. Quoi qu'il en soit, mon idée est de faire apparaître les grandes scansions de la musique jamaïcaine au travers du rôle joué par ces personnages centraux, les DJs. Ces scansions peuvent être liées entre elles, autant qu'à la société postcoloniale dont elles expriment les expériences quotidiennes, par le concept de soul force. L'anthropologue jamaïcain Leonard Barrett l'utilise dans ses travaux sur les religions et les expressions musicales caribéennes. Son ambition première est de désigner ces éléments transversaux qui, tant dans l'expérience spirituelle que dans l'épreuve sensible du monde, tiennent ensemble quelque chose d'une perception africaine-américaine de l'histoire coloniale et de ses héritages. Mon hypothèse est qu'en repartant d'une telle matrice commune de l'expérience noire, il est possible de montrer de quelle façon la soul force infuse la musique jamaïcaine et les mots de ses DJs, jusqu'à passer à l'intérieur des corps lors de performances musicales empreintes de ces énergies vitales qui vous maintiennent debout face aux épreuves de l'adversité. Cette première idée des résistances quotidiennes, se maintenir, ne pas plier, m'amènera au questionnement des rapports à la dignité qui se jouent dans le corps à corps avec l'Occident, engagé par nombre de DJs au travers des gestes, des paroles et de tout ce qui compose leur style expressif, celui du dancehall. L'espace que l'on désigne communément par le vocable dancehall constitue à la fois le lieu des performances et l'appellation du style musical dans lequel se reconnaissent les DJs. Sorte de cousin caribéen du rap américain, le dancehall est souvent présenté comme l'enfant terrible du reggae auquel il aurait succédé au cours des années 1980 pour finir par occuper le devant de la scène musicale jamaïcaine. Ainsi, le dancehall fait-il souvent scandale auprès de la bonne société, tant par ses mises en scène du sexe, de la violence et de l'argent, autant de sujets qui renvoient au domaine du slackness, la débauche, que par les frasques de ses acteurs, dont une partie fait régulièrement les gros titres des quotidiens. C'est dire que le dancehall s'enchâsse profondément dans la trame des cultures populaires jamaïcaines, dont il fait entendre nombre de conflits. Une propension à la critique sociale que ces artistes rangent précisément sous la bannière de leur culture. Comprendre les performances des DJs C'est alors s'efforcer d'approcher leur art en cherchant non pas à opposer, mais plutôt à articuler culture et slackness comme les deux faces d'une même pièce où se joue, par la rupture des codes de la bienséance, le slackness, ou la critique sociale explicite, la culture, un même élan de résistance affiché par les plus pauvres à l'égard des valeurs d'un Occident globalisé dont ils éprouvent le rejet, tout comme la domination. D'un point de vue formel, le dancehall moderne se compose de rythmiques, le plus souvent digitales, les rhythms, selon leur appellation jamaïcaine, amplifiant les syncopes du couple basse-batterie, lesquels servent d'appui à la scansion des rimes qu'élancent les DJs. Je l'ai dit tout à l'heure, ce terme désigne en Jamaïque celles et ceux qui ne parlent pas plus qu'ils ne chantent sur la musique. Ces performeurs de l'oralité scandent plutôt leurs textes et chevauchent les rythmes en jouant de la musicalité d'un phrasé qui participe du sens qu'ils déploient autant que les mots qu'ils emploient. Leur premier lieu de formation et leur habitat naturel, si l'on peut dire, est le sound system, un système de sonorisation dont les colonnes d'enceinte permettent de jouer de la musique amplifiée, c'est-à-dire les fameux rhythms. Si l'on voulait densifier la description d'un tel art expressif, il faudrait ajouter qu'il est plus ancien que le dancehall actuel ne le laisse supposer. Car les premiers sound systems se sont établis dans les rues de Kingston, la capitale jamaïcaine, dès les années 1950. Au cours des années 1960, un marché concurrentiel s'est peu à peu structuré. Il allait être dominé par les Big Three, les trois grands, le Downbeat Sound System de Coxon Dodd, le Trojan Sound de Duke Reed et le Giant Sound System de King Edwards. Tandis que la compétition sonore faisait rage, la qualité de la sélection musicale, de même que l'inventivité des animateurs de soirée, les DJs, ont très vite constitué autant d'arguments décisifs dans la conquête des publics. Ainsi, Count Machuki, King Stitt, Lord Comeck et bien d'autres à leur suite se sont-ils emparés des micros pour lancer en rime et en rythme les morceaux qui faisaient danser les foules. Bientôt, leurs interventions ne se sont plus limitées aux seules introductions des titres pour s'étendre à toutes les parties instrumentales, les versions, qu'ils ont conquises comme leur espace d'expression. Tandis que le public attendait leurs exubérances verbales au moins autant que les morceaux qui leur servaient d'appui, ces hommes ont posé les fondations d'un nouvel art expressif, indissociablement vocal et musical, le DJing ou toasting, puisqu'ils portaient littéralement un toast à la musique en la magnifiant par leurs rimes. Quant aux propriétaires des sound systems qui employaient ces DJs, ils ont également ouvert des studios d'enregistrement. Ceci, à l'instar du Studio One de Coxon Dodd, ont permis de graver dans le vinyle les premiers actes d'une musique populaire jamaïcaine dont l'essor a rythmé l'accès de l'île à l'indépendance acquise à l'égard de l'Angleterre en 1962. Le ska constituait alors la bande-son des ghettos de Kingston. Au fil de la décennie, le tempo effréné du ska est devenu à la fois plus lent et langoureux, donnant naissance au rocksteady, lequel faisait la part belle aux trios vocaux et à leur ritournelle, puis au reggae. Ce dernier n'a pas tardé à s'affirmer comme la musique jamaïcaine emblématique du tournant des années 1970, une période qui a également été celle de son succès mondial, tandis que les scansions rythmiques du reggae s'alliaient aux percussions ainsi qu'aux thématiques du rastafarisme. Présent en Jamaïque dès les années 1930, ce mouvement spirituel afrocentriste tire son nom du dernier empereur d'Éthiopie, le Rastafari, Haïlé Sélassié, dans lequel les Rastas voient un messie et la figure du Christ noir réincarné. À l'instar du peuple juif dont l'Exode est rapporté par la Bible, les Rastas estiment que depuis l'esclavage, ils vivent en déportation dans la nouvelle Babylone coloniale dont ils combattent toutes les institutions, politiques, religieuses ou scolaires, perçues comme vectrices de l'esclavagisme mental dans lequel les Noirs seraient maintenus. Leur salut se trouverait dès lors dans l'idée de « repatriation », à savoir le retour sur la terre ancestrale d'Afrique, équivalent du royaume de Sion ou Zion. En attendant la possibilité d'un tel retour, l'idée est de s'en remettre à Jah, le nom hébreu de Dieu, afin de résister au système babylonien dont il s'agit de déconstruire tous les mécanismes d'oppression qui ont éloigné les Noirs déportés de leur moi profond, Far High. Dans les années 1970, alors que reggae et rastafarisme font cause commune contre l'oppression occidentale, ils deviennent, paradoxalement, des références de la contre-culture en Occident. L'allure et le style de vie des Rastas, notamment leurs dreadlocks, littéralement des nattes effrayantes composées de longues nodosités capillaires, et leur usage de la ganja en font des effigies rébellionnaires auprès de toute une jeunesse blanche inspirée par la musique de Bob Marley et quelques films en vogue sur les écrans européens, à l'instar de Rockers par exemple. En Jamaïque, ce sont les DJs tels U-Roy, Big Youth, Prince Farai ou Trinity qui propagent leurs dread talks, le langage rasta souvent composé d'ellipses et de double sens, dans les sound systems et sur les vinyles qui diffusent leurs scansions vocales au-delà des frontières de l'île. Si Rastafari devient ainsi le synonyme d'une spiritualité et d'une culture populaire consciente d'elle-même, des conflits et de l'oppression que vivent les Noirs les plus pauvres, les thématiques légères et relâchées ne disparaissent pas pour autant des dancehalls. Car on y vient également pour oublier la pénibilité des semaines de travail, voire son absence, chasser l'espace d'un moment par les rythmes tonitruants du reggae. Ces deux aspects de la musique populaire jamaïcaine, conscience et relâchement, ou culture et slackness, dans le vocabulaire du dancehall contemporain, structurent aujourd'hui encore une grande part de la production musicale de l'île. Au cours des décennies 1980 et 1990, la tendance au slackness s'est d'ailleurs affirmée, tandis que le dancehall reflétait un nouveau durcissement des conditions de vie dans les ghettos, où les armes à feu, la drogue et la violence n'ont cessé de proliférer. Une fois encore, la musique jamaïcaine et ses sound systems se sont fait l'écho de la rue et d'une nouvelle génération de DJs dont les rimes ont résonné de toute cette turpitude, ses envies ou ses espoirs déçus. À la suite d'artistes comme Yellowman, que les conservateurs considéraient comme un pornographe les plus vulgaires, Shabba Ranks est sans aucun doute apparu au premier rang de ceux qui ont porté la voix du slackness auprès du grand public. Tandis qu'il enchaînait les succès sur la scène dancehall, les scandales s'accumulaient, nimbant d'un halo souffré chacune de ses apparitions, classées X, ainsi qu'il aimait à s'en vanter. Cela étant, dès 1990, Shabba Ranks enregistre le titre « Roots and Culture », où il clame qu'il n'a rien d'un one-way DJ, comprenez, un DJ qui n'irait que dans le sens du slackness, et qu'il connaît parfaitement ses racines, comme sa culture. Or, c'est précisément à l'entame de la décennie 1990 que Caroline Cooper a publié son premier livre, Noises in the Blood, des bruits dans le sang, dont un chapitre traite du dancehall replacé dans la continuité historique d'une oraliture où la langue jamaïcaine prend littéralement corps au travers de la culture et de la geste populaire qu'animent celles et ceux qui la vivent au quotidien. Activiste du reggae, danseuse, danseur et DJs de la scène dancehall, Caroline Cooper, voilà autant de performeurs des arts expressifs qui tissent la trame d'une culture populaire dont l'un des piliers est la résistance qu'elle oppose aux institutions postcoloniales. Non pas que cette résistance soit cherchée a priori, mais sa langue et ses rythmes, en provenance des rues, vibrent plutôt dans le poignet de Caroline Cooper et résonnent ainsi jusque dans son écriture. Aussi a-t-elle consacré toute une série de textes au dancehall dont elle propose une lecture des corps dansés qu'elle assimile à une forme de marronnage érotique. Comprenez, une érotisation des corps, et notamment celui des femmes, qui entre ouvertement en résistance, d'où l'idée de marronnage, vis-à-vis des codes bourgeois de la décence. Les organisatrices et les organisateurs de cette journée évoqueraient aussi la question de la dignité. En la matière, Caroline Cooper s'est notamment intéressée à l'affirmation des femmes DJs au cours de la décennie 1990 et plus particulièrement à la façon dont elles ont conquis leurs espaces d'expression en contestant, voire en renversant les mises en scène de l'hégémonie masculine dont le dancehall reste un haut lieu. À ce titre, Lady So fait sans aucun doute figure de pionnière. Tout en s'imposant sur le terrain pour le moins masculin du slackness, elle n'a cessé d'affirmer sans détour, et aussi crûment que les hommes, le pouvoir des femmes sur leur corps et le désir qu'il peut susciter. Nombre de performeuses lui ont emboîté le pas. Parmi les exemples récents, on pensera à Spice, qui ne cesse de s'emparer des stéréotypes de genre pour y semer le trouble. Ainsi s'affiche-t-elle volontiers en dominatrice, de la même manière qu'elle n'hésite pas à s'inscrire dans les enjeux typiquement masculins du street racing des courses illégales de voitures customisées, très prisées dans certains ghettos jamaïcains. Spice se plaît alors à priver les hommes de leur contrôle sur ce prolongement phallique que figure la puissance du véhicule, ses vrombissements et sa force de pénétration qu'ils sont censés dominer sans partage. Dans toutes les vidéos qui accompagnent les morceaux de Spice et bien d'autres, la partie du corps féminin que l'image ne cesse de souligner est sans conteste le fessier dont les rebonds, saccades et autres cassures rythmées appellent les regards autant qu'un désir que ces femmes semblent bien plus contrôler que subir. À partir de cette centration des regards sur les arrière-trains féminins, Caroline Cooper s'est plu à tracer un parallèle généalogique entre le puissant fessier de Nanny, figure de la résistance des esclaves noirs face aux colons britanniques, et celui, explicitement érotisé, des actrices du dancehall. Un fragment mythique mettant en scène la force féminine déployée par Nanny à la tête de l'armée qu'elle a conduite face aux Britanniques pendant la Première Guerre des Marrons, 1729-1739, situe en effet dans son postérieur l'effectivité d'une puissance calipige censée lui avoir permis de dévier les balles tirées par les soldats coloniaux. Ainsi, Nanny a-t-elle réduit à néant le pouvoir de tous ces micro-pénis cherchant à la pénétrer. De la reine des marrons aux dancehall queens d'aujourd'hui, il y aurait donc une forme de continuité, à la fois esthétique et agonistique, que Caroline Cooper suggère par l'idée de marronnage érotique, à la fois contestation d'une certaine idée de la respectabilité ou de la dignité féminine, et renversement des stéréotypes de genre, puisque c'est par la mise en scène contrôlée de leur nudité que les femmes affirmeraient leur pouvoir, de même qu'une certaine mainmise sur l'économie du désir. Là où le féminisme occidental ne voit qu'asservissement des corps féminins par un pouvoir masculin prétendument tout-puissant, Caroline Cooper perçoit plutôt dans le dancehall une scène où se joue, non sans lutte, la possibilité d'un véritable empowerment des femmes issues des ghettos jamaïcains. Si elle se réclame dès lors d'un féminisme noir, en rupture avec les traditionnelles diatribes sur la sexualisation à outrance du corps féminin dans les performances dansées, une telle interprétation ne laisse pas de susciter les plus vives critiques en Jamaïque et ailleurs. Mais sur ces sujets, comme sur celui de l'homophobie dans le dancehall et la culture populaire jamaïcaine en général, Caroline Cooper ne craint pas la polémique. Plus que sa propre voix, c'est celle des DJs qu'elle tente de faire entendre, sans que leurs mots ne soient sortis du contexte jamaïcain qui leur confère leur sens, et sans avoir nécessairement à choisir entre bien et mal, ou bon et mauvais. Pour autant, chercher à se situer par-delà des formes d'économie morale dont les valeurs s'imposeraient de l'extérieur, et tout particulièrement en provenance du Nord global, ne saurait revenir à ignorer la persistance de certaines formes de violence, et notamment celle que suscite l'homophobie en Jamaïque. Une note de l'organisation non gouvernementale Human Rights First, publiée le 15 mai 2014, rappelle que l'homosexualité y est illégale depuis 1864 et qu'aucune modification de la loi n'est à l'ordre du jour. Selon le Jamaican Forum for Lesbians, All Sexuals and Gays, le JFLAG, plus de 80% de la population jamaïcaine accréditerait l'opinion selon laquelle l'homosexualité est immorale et 75% s'opposerait à toute abrogation des textes de loi existants à ce sujet. Comme l'explique Donna Hope, à la suite de Caroline Cooper, l'homophobie affichée dans le dancehall ne saurait dès lors être comprise comme une création ex nihilo. Elle fait plutôt écho à un fond homophobe aussi ancien qu'actif dans la culture jamaïcaine. Un fond qui n'est pas sans rapport avec les valeurs de l'Occident chrétien, inculqué aux esclaves noirs et souvent assorti d'une lecture fondamentaliste du texte biblique, en l'occurrence celle du Lévitique, chapitre 18, où l'homosexualité est explicitement décrite comme une abomination, paragraphe 22. Quant à la façon dont ces idées sont affichées sur la scène dancehall, elles renverraient, toujours selon Donna Hope, à la position subalterne de la plupart des DJs qui, issus des ghettos, verseraient dans une surenchère d'affirmation masculine visant à compenser la fragilité de leur position sociale au détriment de la figure repoussoire de l'homosexuel, le batiman ou tchétchéman dans le patois local, conçu comme l'homme inauthentique par excellence. Nombre de DJs ayant atteint une stature internationale, depuis Chabarangs et Boudjou Banton dans les années 1990 jusqu'à Vibes Cartel au cours de la dernière décennie, se sont attirées les foudres des activistes et autres défenseurs des droits de l'homme en Occident. Dès 2003, l'association LGBT britannique Outrage a déposé plainte contre l'organisation des Music of Black Origin Awards, lesquels ont décerné des prix à Beanie Man, Bounty Killer et Elephant Man, trois DJs aussi célèbres que connus pour leur diatribe homophobe. Diffusé par Boudjou Banton en 1992, le morceau Boom Bye Bye est considéré comme l'acte fondateur de cette controverse qui a valu aux DJs incriminés l'annulation de nombreux concerts en Europe. En revanche, dans les ghettos jamaïcains, de telles attaques contre les stars du dancehall sont le plus souvent perçues comme autant de menées perverses orchestrées par Babylone, les institutions qui portent les valeurs de l'Occident postcolonial et ses lobbies mondialisés, pour affaiblir la culture ainsi que le style de vie de ceux qui ont fait le choix de s'y opposer. Un DJ comme Boudjou Banton a par exemple refusé tout compromis en s'arc-boutant sur ce qu'il considère comme les principes inaliénables d'une morale inspirée du rastafarisme. Une attitude qu'il scande dans le morceau Complaint, où il moque les plaintes des Occidentaux. Boudjou Banton est ainsi conçu par les plus pauvres, tel un authentique résistant qui porte haut la fierté, la dignité et les valeurs des sufferers, les habitantes et les habitants des ghettos. Empruntant au langage des DJs, Caroline Cooper a forgé le concept de border clash pour désigner ces affrontements, clashes, qui se déroulent dans des zones de conflit où les économies morales s'opposent aux frontières, aux borders des mondes. Parmi d'autres, Vibes Cartel peut sans doute être vu comme un expert dans la désignation de ces frontières qui séparent son monde paupérisé du reste de la société jamaïcaine. Ces rues poussiéreuses, jalonnées de baraques en tôle et de maisonnettes en fibre au ciment, révèlent le dénuement, mais aussi la condition des sufferers condamnés à vivre ou plutôt à survivre dans ce Gaza made in Jamaica. C'est en tout cas ainsi que Vibes Cartel a renommé son quartier, Gaza, et baptisé sa garnison de fidèles, le Gaza Crew, en allusion directe à la situation des Palestiniens opprimés par un gouvernement israélien qui les a, eux aussi, parqués dans leur territoire et confinés au mépris, voire à l'indignité. Un mépris et une indignité dont le DJ s'estime frappé de plein fouet depuis qu'il a été emprisonné en 2011 pour une affaire de stupéfiants, puis condamné en 2014 à purger une peine de 35 ans de prison pour un meurtre dont il assure être innocent. Loin d'avoir entamé sa notoriété, l'incarcération de Vibes Cartel est perçue par ses turiféraires comme un combat de plus livré par l'empereur de Gaza contre l'appareil d'État. Quant à ses nombreux adversaires, y compris dans les ghettos, il voit plutôt en lui une sorte de clown blanc, outrageusement tatoué et pratiquant le bleaching, c'est-à-dire l'éclaircissement de l'épiderme par l'application de produits dépigmentants. Aux yeux de ses critiques, cet éclaircissement apparaît comme un reniement de soi, ainsi que de tous les idéaux d'une fierté noire prônée par les Rastas et leurs DJ conscients, dont les figures les plus populaires sont sans doute incarnées par Capleton, Sisla Kadonji et leurs héritiers. Ô combien clivante et clivée, la personnalité, comme la musique de Vibes Cartel, comme celle de bien d'autres DJs, ne saurait pourtant être rangée d'un seul côté d'une frontière qui isolerait hermétiquement le slackness de la culture ou le digne de l'indigne. Comme les conflits qui viennent d'être pointés, le débat continue. Quant à moi, je m'arrêterai là et ne livrerai plus que quelques éléments d'ouverture à ce même débat. Dans ce qui précède, j'ai centré mes efforts sur une description des structures culturelles qui fondent l'expression des DJs et constituent leur soul force, une manière spécifique de scander leur vision du monde et d'en prolonger l'incarnation dans des corps traversés par leur voix, comme par les rythmiques tonitruantes du dancehall. Or, on l'a vu, la signifiance de ces sonorités, tout comme celle des corps dansés, se situe bien souvent à contre-temps et à contre-courant des valeurs prônées par l'Occident, ou Babylone, selon le terme consacré par le Dread Talk. Selon l'hypothèse de départ, c'est bien ce langage-là, et non un quelconque idiome de chercheur, qui livre les premières clés de compréhension d'une scène artistique dont l'histoire recèle sa propre anthropologie. non pas une anthropologie des autres, tel groupe ou telle ethnie étudiée d'un point de vue extérieur, mais une anthropologie autre, distante de toute forme d'académisme et cependant porteuse d'une réflexion articulée à tout un ensemble de concepts qui disent l'expérience de la vie quotidienne, de la brutalité, du dénuement, mais aussi de l'espoir, du désir et de la dignité dans les ghettos jamaïcains. Quant aux concepts et autres codes du dancehall, la présentation partielle, pour ne pas dire parcellaire, qu'en livre cet exposé, montre un perpétuel entre-deux, incarné par les DJs, dont les mots ne cessent de balancer entre « culture et slackness » ou « sexualité, violence » et « conscience aiguë de l'oppression ». Les Rastas expliquent cette manière de vivre dos à dos avec soi-même comme la résultante du schisme interne que porteraient en eux tous les Noirs héritiers de l'esclavage et de sa Babylone plantocratique, dont le système de domination a ouvert une insondable brèche dans leur moi profond. Depuis, la haine de soi et des siens inculquée par les anciens maîtres continuerait d'infecter le quotidien des ex-esclaves dont le métal des chaînes a été remodelé en armes à feu. La voilà, l'indignité telle que la perçoivent celles et ceux qui en subissent quotidiennement les conséquences. En substitution d'un « nous », dont l'emploi supposerait l'effacement des séparations comme des violences de l'histoire, le dread talk des Rastas préfère dire « I and I », un pronom aussi personnel que composé et qui indique bien quelque chose d'un jeu dédoublé, « I and I », au sein d'une même expérience de la communauté. Si bien qu'il insiste sur la composition duale d'une identité postcoloniale qui marque la réunion de ceux que l'expérience de la traite a d'abord séparés. Sans doute pourrait-on avancer sans trop se tromper que cette dualité constitue la structure symbolique sur laquelle s'appuie une identité jamaïcaine inexorablement posée comme une question dont la réponse resterait en suspens, perpétuellement contrebalancée entre des héritages et des mondes difficiles à réconcilier, sinon à concilier. Plutôt que d'essayer de répondre à une telle question, ô combien complexe, mon ambition, résolument modeste, a simplement été de montrer comment son point d'interrogation est tracé par celles et ceux qui, libérés de leur chaîne, portent toujours en eux l'enchaînement des douleurs, des incompréhensions et des perplexités marquées par l'empreinte des fers. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors nous allons écouter Norman Adjari qui nous a rejoint mais qui n'a pas encore activé sa caméra et son micro. Voilà. Bonjour.
Bonjour. Vous m'entendez ?
Oui, très bien. Alors je vais vous présenter très rapidement et puis ensuite, comme pour Jérôme Bochès, vous aurez une demi-heure et ensuite on aura une demi-heure de discussion des deux communications. Voilà. Alors, Norman Adjari, donc vous enseignez à l'Université Villanova de Philadelphie. Vous êtes membre du bureau exécutif de la Fondation Frantz Fanon, vous êtes spécialiste des questions raciales et de la pensée postcoloniale, et vous avez publié en 2019 à La Découverte un ouvrage qui nous inspirait, qui s'appelle « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race ». Voilà, donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Comment dire ? Hier, c'était un jour férié ici aux États-Unis, c'était le Columbus Day, un triste jour férié d'ailleurs, en tout cas à mon avis. J'ai malheureusement pas eu le temps de préparer aussi bien la communication que j'aurais voulu, ou plus précisément, je vais partir d'un papier que je suis en train de préparer, je suis en train d'écrire pour un numéro de revue consacré aux Black Male Studies, mais le problème c'est que ce numéro de revue est en anglais, alors je vais devoir essayer de traduire dans ma tête, donc si je suis un petit peu hésitant dans la manière dont je m'exprime en français, dont j'essaie de me traduire moi-même, eh bien je vous prie de m'en excuser. Comme vous m'avez fait l'honneur de me citer dans le texte de cadrage de votre journée d'études, alors je me permets dans ce cas-là, c'est pas exactement mon habitude, mais de revenir à quelques éléments que j'ai déployés dans mon livre à propos de cette question de la dignité, de la manière dont j'ai tenté de la définir pour essayer d'avancer et de rejoindre d'une part la question de la performance telle qu'elle est questionnée telle qu'elle est reçue, expliquée, explicitée dans les Black Studies contemporaines, non pas les Black Studies, britanniques, dont s'est inspiré le collègue qui vient de s'exprimer, mais une autre tonalité de Black Studies, puisqu'il s'agit de celle nord-américaine, et dont on pourra voir, peut-être en comparant nos deux exposés, la différence de ton et la différence d'esprit qui les anime et qui me semble un point assez intéressant. Ce que j'ai tenté de montrer, ce que j'ai tenté d'expliquer ou ce que j'ai tenté d'élaborer dans La dignité ou la mort, c'est l'idée que la vie des personnes noires dans les sociétés qui étaient historiquement définies par le colonialisme et la hiérarchie raciale était généralement dégradée qualitativement et quantitativement. C'est un point de départ, bon, assez facile. Et qu'elle était caractérisée par...
Esta reunión está siendo grabada.
Ok, si vous voulez. caractérisée par la violence d'État, une absence de soutien institutionnel, une discrimination systématique qui tendait à constituer un contexte caractérisé par une espérance de vie plus courte et une existence qualitativement différente de celle de la population majoritaire, la population blanche, qualitativement, disons, dégradée. Mais en outre, une dimension fondamentale de cela consiste dans la rémanence de certaines formes de domination, de certaines formes de violence issues du passé, puisque, comme je le dis dans le livre, être noir consiste à provenir d'une population dont les ancêtres ont été déshumanisés par aussi bien la philosophie que la théologie, que la sociologie, que l'anthropologie, que la médecine, que la psychiatrie, you name it. Toutes les disciplines, d'une certaine manière, toutes les disciplines du savoir, au cours des 17, 18, 19e siècles, se sont rassemblées pour définir l'inappartenance de l'individu noir à l'espèce humaine, ou en tout cas son appartenance dans une position extrêmement subalterne. Eh bien, à travers l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, il se trouve que la notion de dignité dont nous parlons a été désignée, au moins depuis Kant, mais certainement auparavant même depuis Pic de la Mirandole, a été systématiquement désignée comme la qualité inhérente et incalculable de n'importe quelle vie humaine. Cette dimension-là est celle, disons, qui se cristallise chez Kant et qui, même si je la résume ici, si je la simplifie, elle a été elle-même simplifiée par l'histoire puisqu'elle a été à l'origine de très nombreuses constitutions de différents États, notamment après la Seconde Guerre mondiale, la constitution allemande notamment, où il s'agissait d'une certaine façon de se prémunir à travers ce concept de dignité contre la résurgence du fascisme, du nazisme et des autres types de totalitarisme tels qu'ils ont été au cœur du milieu du XXe siècle. Notion instrumentale donc de dignité que nous avons ici et qui s'est explicitement déployée dans nos législations pour lutter contre la stigmatisation et la violence raciale, mais toutefois une acception traditionnelle qui a toujours, d'une certaine manière, échouer à tenir compte jusqu'au bout de l'existence, des existences racialisées, car elle s'est systématiquement déployée, et comme je le disais, cela depuis Kant, en s'autorisant quelques exceptions, et en rusant, pour employer une formule de Césaire, avec ses propres principes, pour ne pas tenir compte de la dignité de toutes et de tous, et très souvent, le corps noir a été l'objet de ces exceptions. Je ne vais pas revenir sur le détail de la manière, disons, philosophique dont Kant procède à cette ruse. Ce serait certainement un petit peu ennuyeux. Si ça intéresse vraiment certains, on pourra en parler après. Ou bien vous pourrez voir le chapitre dans mon livre pour avoir l'argumentation philosophique là-dessus et vous pourrez voir si vous pensez que ça tient la route ou pas. Ce que j'affirme, c'est que confronté aux conditions abjectes que je viens de rappeler, confronté à cette histoire des mises en exception de la dignité noire, eh bien ce concept de dignité, dans sa prétention à l'universalité, ne peut pas rester inchangé, ne peut pas s'abstenir d'un examen critique, et notamment d'un examen critique que j'essaye d'opérer depuis le point de vue, depuis la perspective noire. La dignité noire, je m'en empare car ce qu'on constate, et ça va être l'objet d'un ouvrage à venir d'un de mes collègues en théologie de Villanova, le professeur Vincent Lloyd, qui publiera bientôt à Yale University Press un livre précisément intitulé « Black Dignity ». Et nous avons toute une histoire, toute une archive dont je n'ai exhumé dans mon propre ouvrage qu'une petite partie. D'usage, une histoire d'usage de cette notion de dignité dans les mouvements politiques, dans les luttes et dans la théologie politique, notamment africaine-américaine, mais qui traverse l'ensemble de la diaspora et également les mouvements et la pensée politique de l'Afrique continentale. Eh bien, j'ai défini, à partir de certains des éléments de cette histoire de la pensée, la dignité noire comme une capacité de tenir debout entre la vie et la mort dont ont fait preuve les populations déshumanisées. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur même des ontologies ou des cosmogonies noires telles que je les ai lues, l'idée que la division qui, dans la plupart de nos conceptions politiques et de nos conceptions sociales européennes, était marquée par une division bien nette entre la vie et la mort, dans les écrits noirs, cette division se trouve être beaucoup plus poreuse et, comme le dit le théologien et philosophe camerounais Fabien Eboussi-Boulaga, il n'est pas rare de passer de l'un à l'autre, il n'est pas rare de transiter entre la vie et la mort. Eh bien, ces visions du monde dans lesquelles les morts sont encore présents parmi nous et dans laquelle les vivants sont encore hantés par les morts, me semble-t-il, était ce qui a permis cette sorte de miracle d'une certaine manière, cette sorte de miracle de la survie noire. En tout cas, c'est ainsi que c'est très souvent présenté dans la pensée politique noire, dans la pensée politique révolutionnaire noire, notamment dans ce qu'on appelle la tradition radicale noire. Cette idée que la survie des populations noires de la diaspora est en elle-même une sorte de miracle, est en elle-même une sorte de preuve non seulement d'une résilience, mais d'une capacité particulière du peuple noir. Et cette dignité, cette résistance à la violence exploitatrice et exterminatrice du colonialisme, se cristallise comme une forme de hantise. C'est ça que j'ai tenté d'exprimer, une forme de hantise des morts, une forme de manière de s'entourer des morts, une manière de de comprendre que l'incapacité souvent organisée et souvent mise en œuvre au cours de l'histoire coloniale pour les populations noires de faire leur deuil, de pleurer leur mort et de leur accorder une véritable sépulture, cela même constitue d'une certaine manière une force dans cette histoire-là. Mais ce que je voudrais ajouter maintenant, en m'acheminant vers notre conversation du jour, c'est que en définissant la dignité comme ça, il s'agissait d'une certaine façon, c'est ce dont je me rends compte, de la définir comme une forme de malédiction. Ce qui me fait penser cela, c'est que ce que j'appelle ici dignité ressemble un petit peu à ce que celui qui est probablement le plus grand penseur de la performance culturelle, de la performance artistique noire, c'est-à-dire Fred Moten, qui est un intellectuel africain-américain qui vient d'ailleurs de recevoir un prix assez exceptionnel, Genius Grant. Je dois vous leur dire que c'est un prix pour le fait d'être un génie. c'est un peu plus d'un demi-million de dollars. Je ne savais même pas qu'on pouvait recevoir des choses pareilles. Bon, c'est les États-Unis. Et Fred Moten a une très intéressante et très fascinante définition de ce qu'est la performance noire. Il l'a définie comme le fait que pour la population noire, la reproduction matérielle, évidemment, il emprunte le terme à Walter Benjamin, la reproductibilité technique est la condition ontologique de l'existence noire elle-même. Il va même jusqu'à parler, pour la performance noire, la performance des esclaves et de leurs descendants, d'une magie de l'objet. Et qu'est-ce que c'est que cette magie de l'objet ? c'est ce qu'il décrit avec toujours des formules énigmatiques, quelque peu énigmatiques qui le caractérisent, le fait que la non-valeur, c'est-à-dire cette existence dégradée que je viens de décrire, cette existence absolument dégradée et absolument rendue abjecte par la déshumanisation esclavagiste, et sa rémanence après dans Jim Crow et dans la mass incarceration aujourd'hui, que cette non-valeur en vient à produire de la valeur, c'est-à-dire à produire les formes musicales qui sont aujourd'hui absolument hégémoniques dans l'industrie de la culture populaire, musicale, à l'échelle du globe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de musique populaire qui ne plonge ses racines dans la musique populaire noire, la musique populaire élaborée par les esclaves de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique latine. La non-valeur produit de la valeur. C'est la magie de l'objet. C'est ça la performance noire. Mais ce qui signifie que cette performance s'enracine nécessairement dans la déshumanisation et qu'on est sans cesse dans cette situation où il y a une fondamentale abomination de cette performance, d'une certaine façon. Et c'est ce qui a été, dans les discussions contemporaines des Black Studies états-uniennes, compris sous la notion de fongibilité qui est au cœur de mon intervention d'aujourd'hui. La notion, plus précisément, de fongibilité noire qui sert aujourd'hui à décrire, dans les Black Studies et dans la théorie critique, à décrire cette espèce de congruence entre la performance et la jetabilité noire. C'est une notion qui a été inspirée par la théoricienne africaine-américaine Horton Spillers, mais qui a été en réalité nommée ainsi par Saidiya Hartman, qui sont deux théoriciennes féministes noires extrêmement, extrêmement, extrêmement populaires. Cette notion de fongibilité est une notion inspirée des sciences économiques, qui signifie la qualité essentielle d'un certain type de marchandise, d'un certain type de marchandise bien particulier, c'est-à-dire une marchandise qui peut être remplacée par d'autres marchandises de même qualité et de même quantité. Or, cette qualité de remplaçabilité est celle qui est l'une des caractéristiques fondamentales qui définit la condition de l'esclave tel qu'il était vendu dans les marchés du sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Horton Spillers, dans un texte très fameux qui cadre d'une certaine manière cette discussion qui s'intitule Mama's Baby, Papa's Maybe, an American Grammar Book, explique que les personnes noires, à partir du moment de la capture, ont été définies comme réductibles à des calculs de place qu'elles pouvaient occuper dans la cale d'un bateau, de nourriture qui devait leur être allouée, de temps qui pouvait être accordé à leur promenade, etc. etc. Le corps de l'esclave disparaissait dans son individualité, dans sa singularité, dans sa dignité. Il disparaissait au profit de cette série de calculs qui faisait de l'esclave ce qu'elle appelle de la chair, c'est-à-dire un élément purement et simplement quantifiable qui, de ce fait, selon elle, se voit privé, y compris de sa qualité genrée, pour ne devenir qu'une masse indistincte de chair à gérer et à faire survivre le long de la traversée. On a donc ici là une critique de l'abstraction à laquelle se livre, mais une critique de l'abstraction qu'il ne faut pas considérer de manière trop hâtive, puisqu'il s'agit de la critique d'une certaine abstraction particulière, c'est-à-dire, car on sait bien que la critique, disons, la critique anticapitaliste ou la critique des opérations marchandes qui se limite à être une simple critique de l'abstraction est quelque peu tronquée, il s'agit ici de se rendre compte de la position bien particulière qu'occupait le corps noir dans l'économie, notamment du Sud, c'est-à-dire une position dans laquelle le corps de l'esclave était un fondement de cette économie. Très souvent, n'importe quelle transaction entre deux propriétaires, entre deux slaveholders, entre deux propriétaires d'esclaves, était garantie, était gagée sur l'existence des esclaves, car contrairement au terrain, contrairement aux pièces de terre, de sol, l'esclave est déplaçable, échangeable, et de ce fait, il est possible de garantir les transactions sur la possibilité d'échanger un esclave ou d'obtenir un esclave en cas de non-paiement. La notion de fongibilité telle qu'elle est aujourd'hui discutée procède donc d'une insistance sur cette idée de déplaçabilité des esclaves. Cette idée de déplaçabilité et cette idée d'impossibilité d'appartenance à une communauté durable, ce qui est, je dis entre parenthèses, l'une des manières dont Hannah Arendt, dans son livre sur le totalitarisme, définit elle-même la dignité, une déplaçabilité qui signifie, c'est là-dessus que Hartmann et Spillers insistent beaucoup, l'impossibilité de la construction d'une cellule familiale durable. Et dans cette littérature-là dont je parle, la question de la maternité est centrale, puisque, comme vous le savez, la loi qui définissait à travers les Amériques la condition des esclaves était définie par la formule latine « partus sequitur ventrem », qui signifie que la progéniture suit l'utérus, c'est-à-dire que l'enfant d'une femme esclave est lui-même, naît lui-même esclave. Là où j'essaye d'intervenir dans la conversation, c'est autour d'une question qui me semble un petit peu étrange ici, qui est cette concentration quasi exclusive, essentielle, sur la fongibilité particulière de la femme esclave, en partant de cette discussion du partus sequitur ventrem. Mais une discussion du partus sequitur ventrem, donc qui insiste bien sur la position d'une fondamentale précarité de la mère esclave, puisque elle ne donne pas naissance à un être humain, mais elle donne naissance à une marchandise. Comme le dit la théoricienne Christina Sharpe, d'une certaine façon, le canal de l'utérus est lui-même une forme de middle passage, est lui-même une forme de passage du milieu, c'est-à-dire que la naissance est d'emblée la traversée de cet Atlantique qui amène à la transformation de l'Africain en esclave. Mais quid de la condition paternelle ici, ou en tout cas quid de la condition de l'homme esclave? C'est là la question que je me pose, et c'est une question qui est d'autant plus, d'autant plus pertinente à partir du moment où l'on se rend compte que les documents et les études historiques dont nous disposons nous montrent que, malgré cette existence du partus sequitur ventrem, l'homme esclave a beaucoup plus de chances, en tout cas dans le Antebellum South, dans le sud des États-Unis après l'esclavage, a beaucoup plus de chances d'être vendu seul que la femme esclave. C'est-à-dire que si on s'en tient à cette définition de la fongibilité que je viens de donner, l'homme esclave est plus fongible que la femme esclave, ce dont la littérature n'a guère tenu compte pour le moment. Il est vrai qu'en principe, la cellule familiale esclave ne dispose d'aucune tangibilité légale, mais empiriquement, les maîtres tendent à, pour des raisons logistiques bien évidentes, tendent à, sauf évidemment en cas d'intérêt particulier, lui donner une certaine cohérence, une certaine tangibilité, mais une certaine tangibilité dont l'homme esclave est fondamentalement exclu, ce qui donne des structures familiales qui existent aussi bien dans les États-Unis du Sud que dans la Caraïbe actuelle, où ça a été analysé par Guica Bormasson, ça a été analysé par Franz Fanon, où la place masculine est particulièrement précaire. Autre élément qui me semble important d'ajouter à cette discussion sur la fongibilité et qui est souvent écarté par un certain nombre de commentateurs et de commentatrices, c'est la question du désir. Cette question du désir qui me semble particulièrement essentielle pour comprendre la profondeur de cette notion de fongibilité et notamment la manière dont elle peut s'articuler à la notion de performance. La littérature, la plupart des discussions sur la notion de fongibilité dans les articles qui sont sortis cette année ou l'année dernière tendent à accepter les apports de Hartmann et les apports de Spillers, mais à rejeter les apports d'autres théoriciens qui sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les afro-pessimistes, qui ne sont pas, donc qui n'embrassent pas ce qu'a désigné, notamment dans l'espace francophone, la notion d'afro-pessimisme jusqu'à présent, c'est-à-dire l'idée d'une incapacité des populations et des gouvernements subsahariens d'embrasser la modernité libérale et de construire des États capitalistes modernes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une thèse par des auteurs africains-américains qui porte sur l'impossibilité d'un progrès racial aux États-Unis sans l'intervention, disons, d'une révolution qui serait absolument radicale et qui mettrait l'État à genoux, disons. Il s'agit d'une thèse sur la fondamentale anti-blackness, anti-noirceur, la fondamentale négrophobie de la société états-unienne et au-delà de la société mondiale. L'intérêt des afro-pessimistes, me semble-t-il, dans cette conversation, est d'avoir fait basculer la discussion sur la fongibilité vers, en y apportant la notion d'une économie libidinale. Notion, comme vous le savez, héritée de Freud, qui désigne l'économie du désir, à partir de laquelle Frank Wilderson, qui est la figure de proue avec Jared Sexton de ce courant dit afro-pessimiste, qui l'a amené à définir l'esclave, à partir d'un jeu de mots assez intéressant et assez amusant, comme historiquement une « property of enjoyment », que l'on peut traduire très littéralement en français comme un bien de jouissance. Et vous voyez qu'en anglais aussi bien qu'en français, le jeu de mots fonctionne et est assez amusant puisque on y entend à la fois la notion classique de jouissance d'un bien, puisqu'effectivement, c'est ce que, en vertu du chattel slavery, c'est-à-dire de la condition de l'esclave comme bien meuble, l'esclave est un bien et on peut jouir d'un bien au sens de le posséder et d'en avoir l'usus et l'abusus, la possibilité d'en user et d'en abuser, mais aussi l'idée que c'est un bien qui fait jouir, et que c'est un bien qui fondamentalement produit de la jouissance, c'est un bien qui fondamentalement produit du plaisir, et est là pour produire du plaisir, existe pour produire du plaisir. Et cela est, me semble-t-il, un élément tout à fait fondamental qu'on tend à négliger, et y compris dans la culture visuelle contemporaine, si vous regardez des films sur l'esclavage récent, 12 Years a Slave, l'autre Birth of Nation, qui sont tous les deux d'ailleurs réalisés par des personnes, par des réalisateurs afro-descendantes britanniques ou états-uniens, vous voyez que lorsque le marché aux esclaves est représenté dans ces films-là, il est représenté comme un espace malpropre, comme un lieu hideux dans lequel on vend des esclaves crasseux, parfois même mutilés, comme c'est le cas dans Birth of Nation, un esclave obèse auquel il manque un bras, que vend une espèce de camelot absolument abominable et absolument odieux. Soit dit en passant d'ailleurs, cette représentation du camelot, du vendeur d'esclaves, du slave trader, comme un personnage, disons, d'ailleurs qui rappelle certains tropes antisémites de l'époque, comme un personnage perfide, malpropre, sans moralité, était une représentation qui n'est pas seulement une représentation d'aujourd'hui qu'on voit dans ces films-là, mais qui était elle-même une représentation de cette profession que se donnaient à eux-mêmes les propriétaires d'esclaves. Les propriétaires d'esclaves considéraient cette profession du vendeur, du commerçant d'esclaves comme une profession malhonnête, abjecte, etc. Et au contraire, le travail productif du propriétaire d'esclaves, de la personne qui dispose d'une propriété et qui cultive la terre et qui fait cultiver la terre par ses esclaves, a été valorisé comme un métier productif et un métier honnête, contrairement à ceux de ces villes commerçants qui non seulement sont, comment dire, font de l'argent d'une manière quelque peu malpropre, mais traitent mal leurs esclaves, qui, contrairement aux exploitants du Sud, qui, comme vous le savez, adorent leurs esclaves, les aiment beaucoup, et les traitent avec beaucoup plus de respect. Bon, je ferme cette parenthèse amusante, mais il est quelque peu déplaisant de voir que ces films reproduisent ce qui est en réalité des clichés des esclavagistes eux-mêmes. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette, dans ces films-là, on a l'idée que le marché aux esclaves est un lieu absolument repoussant, un lieu terrifiant, puant, odieux, dans lequel tout le monde est, tout le monde est crasseux et comment dire, quand on y entre, on n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer, de manière assez évidente. Mais ce n'est pas conforme à la réalité. Il faut bien se rendre compte que le marché aux esclaves était, a été fondamentalement un marché. Et une société de consommation n'est pas une société du dégoût, c'est une société du désir et une société du plaisir. Et tout était fait, tout était organisé pour rendre la visite à un marché aux esclaves une expérience extrêmement plaisante. On le sait, les esclaves étaient, comment dire, arrangés, soignés, on leur faisait faire de la musique, les marchés aux esclaves, quand ils arrivaient dans une ville, dans une bourgade, étaient annoncés à la manière d'un spectacle, par campagne d'affichage, les esclaves qui pouvaient être maltraités se voyaient avant cela soignés, lavés, ils sentaient bon, il s'agissait, comment dire, de les huiler, d'insister sur la beauté, la désirabilité de leur corps, hein, aussi bien des femmes que des hommes, c'est-à-dire de les présenter comme des pièces possibles, comment dire, qui sont non seulement des travailleurs performants, mais aussi de possibles, ne serait-ce que dans la fantasmatique, de possibles partenaires sexuels. Il s'agissait également de signifier, de sursignifier la jouissance qu'ils prendraient au travail. On a toute cette, comment dire, toute cette expérience et tout cet ensemble de significations qu'il s'agissait de produire sur le marché aux esclaves et qui visait à en faire non pas un lieu de l'abomination où on va à reculons, mais au contraire un lieu où il est possible de satisfaire pour le client blanc des désirs qu'il ne peut satisfaire nulle part, c'est-à-dire le désir de la prise de possession d'un corps et avec la promesse des mille plaisirs vénéréens ou de satisfaction capitalistique qui pourrait venir par la suite dans cette expérience. Eh bien, cela, c'est ce qui me semble être, et je vais terminer là-dessus car j'ai fait ma lumière, ça me semble être, et c'est aussi, je crois, ce qui définit la performance noire pour, comment dire, Fred Moulton, ça me semble être à la racine, si vous voulez, de ce qu'est non seulement la fongibilité, mais de ce qu'est la présence culturelle, noire, diasporique, actuellement. C'est-à-dire, très précisément, ce qu'il a appelé la non-valeur qui produit de la valeur, c'est-à-dire un type stéréotypé, un ensemble stéréotypé de formes de désirabilité du corps et de la performance musicale noire qui suscite une pulsion qui est très souvent une pulsion d'acquisition, une pulsion acquisitrice, que j'appelle, d'un terme qui n'est certainement pas le mien, mais qui est celui de Fanon et qui est une belle postérité, que j'appelle une forme de négrophilie, c'est-à-dire le désir irrationnel pour l'acquisition, la prise de possession et la jouissance du corps noir et de la performance noire, telle que, je crois, le marché aux esclaves en demeure la scène originaire. D'où une question que Fred Moulton pose à la fin du très beau film de Arthur Jaffa, qui s'intitule Dreams are colder than death, les rêves sont plus froids que la mort. Il demande à la fin une question qui peut sembler très étrange, notamment aux personnes non familières de cette littérature. Est-il possible d'aimer les Noirs? Peut-on aimer les Noirs? Peut-on aimer la blackness? Peut-on aimer la noirceur? Il précise, non pas la désirer, non pas vouloir l'acquérir, non pas la convoiter, mais l'aimer. Il dit, je crois que c'est possible, mais vraiment, la question se pose. Et effectivement, sous le regard occidental, sous le regard européen, sous le regard nord-américain, la manière dont le noir s'est imposé dans l'économie libidinale, la manière dont il a été perçu, la manière dont il aujourd'hui encore participe de l'économie du divertissement, a été sous la forme d'un bien qu'il était possible et qu'on était encouragé à acquérir. Voilà, je vous remercie pour votre invitation et votre écoute.